Chame au fourneau.
Ça va, Coco.
Chame au fourneau.
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 Ça va, Coco.
Bonjour, je m'appelle Kaye Lefort-Turkova. Je vais vous présenter Aurélien Lefort. Il est vigneron, il a commencé professionnellement en 2011 à Madria, près de Boud, dans le métier de vigneron. Ce métier consiste à tailler les vignes, tailler, travailler la terre. Début octobre, il y a les vendanges. Il va dans plusieurs pays pour faire du négoce, acheter du raisin. Les cépages qu'il a sont Gamay, Pinot Noir et Chardonnay.
Aucun intrant chimique n'est ajouté à la vigne. Les pieds de vigne sont travaillés à la pioche. Les vendanges sont faites manuellement et peuvent se prolonger jusqu'à 3 semaines en raison du tri minutieux des baies. Le vigneron est une personne qui cultive des vignes pour produire du vin. Son travail consiste à prendre soin des vignes tout au long de l'année, en s'assurant qu'elles poussent bien et sont en bonne santé. Il doit surveiller plusieurs étapes, comme la taille des vignes, la gestion de l'irrigation, la protection contre les maladies et les parasites, et la récolte des raisins.
Une fois les raisins récoltés, le vigneron peut aussi participer à la vinification, c'est-à-dire au processus de transformation des raisins en vin, en contrôlant la fermentation, l'élevage et parfois la mise en bouteille. Le vigneron doit être à l'écoute de la nature, des saisons et des conditions climatiques pour ajuster son travail et produire un vin de qualité. En résumé, c'est un métier à la fois agricole et technique, avec un lien fort à la nature et l'art de faire du vin.
Donc je vais vous présenter un audio de Aurélien Lefort.
Je crois que tout d'abord ça a commencé par le désir de travailler en extérieur, en contact avec la nature, en tout cas les plantes. Ça apportait aussi une certaine liberté. Moi, j'aimais le travail avec le vivant, le fait de travailler seul, sans mécanisation et pas d'utilisation de produits chimiques. C'est aussi la partie vin, donc la transformation, cette relation avec un produit vivant, encore une fois, sans ajout de chimie ni de correcteur, donc 100% raisin, et découvrir cette matière qui fermente et qui va jusqu'à un produit fini et qui va être dégusté au fur et à mesure des années, avec tout ce que ça peut apporter de caractère et d'enrichissement au niveau du goût. Et puis il y a l'aspect créatif et artisanal qui est aussi assez ancestral. On a le contact avec des choses anciennes et qu'on peut appliquer dans un monde contemporain. Puis enfin, la relation à la clientèle, c'est-à-dire l'accueil des clients, le déplacement pour participer à des salons, à des événements, la relation avec les métiers de bouche, c'est-à-dire les restaurants, les acteurs de la gastronomie, les bars, les auberges, la participation aussi au rayonnement d'un territoire et de son paysage. Mon parcours, il est très classique au début, donc collège, lycée, baccalauréat, ensuite envie de se déplacer, donc des études en histoire de l'art, puis ensuite école des beaux-arts, donc études des arts appliquées pendant 5 ans, donc, obtention d'un diplôme, et à la sortie de tout ça, envie de faire un travail qui soit à la fois créatif, en relation avec la nature. Donc ça a mis un peu de temps avec des voyages et avec un désir de trouver un lieu où s'établir, avec une formation en viticulture et œnologie. Puis ensuite un stage de 2 ans chez un vigneron, la vallée de la Loire, et pour enfin partir en Auvergne et découvrir une région très intéressante et qui mène d'ailleurs à la troisième question, c'est-à-dire pourquoi s'être installé à cet endroit-là en particulier. C'était principalement l'envie de venir dans une région connu au niveau de la vigne et du vin, où il y avait des possibilités d'installation sans trop de moyens. Puis aussi, j'avais beaucoup apprécié la qualité des vins de quelques vignerons qui étaient déjà par ici. La beauté des paysages, la diversité géologique. Boud particulièrement, c'était plutôt un hasard. En fait, j'ai commencé à travailler pour quelqu'un qui était dans le nord du département, plutôt du côté de Clermont-Ferrand. Et on a trouvé une maison où s'installer dans le sud du département. C'était pas pratique au niveau du déplacement, mais c'était très intéressant de découvrir aussi cette partie-là du Puy-de-Dôme.
En conclusion, sur un territoire où nous ne connaissions pas de production de vin, il existe des vignerons qui fabriquent leur vin chez nous dans notre région. C'est un métier qui est artistique et exercé par passion par nos vignerons. On remercie Aurélien Defort d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été très aimable durant notre interview.
Chameau fourneau,
ça va à coco.
Chameau fourneau.
Chameau fourneau.
Chameau fourneau.
Chameau fourneau.
Chameau fourneau.
Ça va à gogo.
Bonjour à tous et bienvenue sur Chameau Fourneau, la minute culinaire de Chamalières. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'un des plus grands cuisiniers du monde, Auguste Escoffier. Tout d'abord, il est né le 28 octobre 1846 à Villeneuve-Loubet et il est mort le 12 février 1935 à Monte-Carlo. À l'âge de 13 ans, alors qu'il rêve de devenir sculpteur, il est placé en apprentissage comme marmiton au restaurant français l'établissement niçois, l'un de ses oncles. À 19 ans, il est engagé au restaurant parisien Le Petit Moulin Rouge. Il travaille comme commis rôtisseur, puis 18 mois après son arrivée, chef garde-manger et enfin chef saucier. C'est là qu'il prend la décision de devenir le chef de brigade d'un grand restaurant ainsi que de présenter ses plats en salle à ses hôtes de marque, notamment lors de l'exposition universelle de Paris en 1867.
Et maintenant, voici quelques-unes de ses créations. Il y a notamment la poire Belle Hélène, qui est un dessert à base de poire pochée dans un sirop et nappé de chocolat chaud, qui aurait été créé vers 1864 et nommé d'après l'opéra de Jack Offenbach, La Belle Hélène.
Auguste Escoffier, il continue ses créations avec la pêche Melba en 1894, dédiée à une cantatrice alors célèbre, Nanny Melba, qui avait triomphé dans Lohengrin de Richard Wagner. Et maintenant, un extrait d'interview au musée d'Auguste Escoffier, à Villeneuve-Loubet, sur l'histoire détaillée de la pêche Melba.
Alors tout d'abord, il crée cette pêche Melba en 1894, alors qu'il est le chef du Savoy à Londres. Et Nelly Melba, qui est une cantatrice, habite l'hôtel. Elle l'invite à aller voir le spectacle Lohengrin à Covent Garden. Il est fasciné, Auguste Escoffier. Quand il rentre, quelques jours après, elle organise un dîner. Il décide de lui faire une surprise et il lui présente dans un signe taillé dans la glace, puisqu'il voulait être sculpteur, un dessert qu'il va appeler au départ la pêche au cygne et qui est de la pêche pochée dans un sirop de vanille avec de la glace vanille et avec une purée de framboise et dessus avec du sucre sucré qu'on n'a pas mis aujourd'hui. Et plus tard, il lui demandera l'autorisation de l'appeler par son nom et ça deviendra donc la pêche Melba.
Ensuite, en 1906, il organise un dîner pour l'empereur d'Allemagne Guillaume II qui aurait dit à Escoffier « Moi je suis l'empereur d'Allemagne, mais vous êtes l'empereur des cuisiniers ».
L'une des collaborations les plus connues d'Auguste Escoffier est probablement la collaboration d'Escoffier et de Ritz qui va avoir pour conséquence la création de l'hôtellerie de grand luxe fréquentée par l'aristocratie européenne et les plus célèbres artistes.
Oui, effectivement, il a apporté de nombreux changements dans la gastronomie française, mais aussi mondiale.
En 1898, il l'organise de façon révolutionnaire avec la mise en place du fourneau long, de la plaque tout feu et le poste d'envoi. L'installation des cuisines du Ritz Paris, que la Ritz développe, fait construire et les dirige.
L'année suivante, il retourne à Londres pour s'installer celle du Carlton et y reste jusqu'en 1920. Dirigeant une brigade de 60 cuisiniers et perfectionne une organisation indispensable pour pouvoir servir quelques 500 couverts à chaque repas. Il interdit l'alcool et le tabac, instaure une ambiance apaisée dans la cuisine et oblige le port de la toque en cuisine.
Ses multiples fonctions ne l'empêchent pas de publier des livres, de composer les brigades de cuisine d'autres nombreux hôtels dans le monde comme le Ritz de Londres, ni d'aménager les cuisines de paquebots de la Amber America Line. Il a notamment écrit le guide en 1903 qui même aujourd'hui reste une référence dans la cuisine française.
Et voilà pour ce podcast sur Auguste Escoffier. Nous espérons que ça vous a plu et à bientôt sur Cham au Fourneau pour une autre minute culinaire.
Cham au Fourneau, ça va à coco.
Cham au Fourneau.
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 Ça va à gogo.